skinny love just last the year. Poor little soul, we were never here. My. Staring at the sink of blood and crushed veneer.
Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Passeurs de mémoire, avec Maa,
Marine,
Marie.
Aujourd'hui, on va parler de mémoire. Pas de date, pas de longue liste d'événements, juste une question simple, comment on se souvient?
Oui, parce que les faits, on les connaît globalement, on sait ce qu'a été la Shoah. On connaît l'existence des camps, les millions de victimes, mais entre savoir et ressentir, il y a un fossé.
Exactement, et ce fossé, les historiens et les sociétés ont essayé de le combler. Pour cela, ils ont créé ce qu'on appelle des lieux de mémoire.
Ces lieux permettent de donner un espace concret à l'histoire. Ils matérialisent un passé qui, sinon, resterait abstrait.
Mais une question se pose. Est-ce que ces lieux arrivent vraiment à transmettre ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut comprendre l'horreur simplement en visitant un endroit?
Parce que la mémoire collective s'est construite peu à peu, au fil du temps, autour de certains lieux devenus symboliques. Mais tous les lieux ne racontent pas l'histoire de la même manière.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a choisi de comparer deux exemples très différents.
D'un côté, Auschwitz, en Pologne, un lieu connu dans le monde entier.
Et de l'autre côté, le camp de Natzweiler-Struthof, en Alsace.
Un lieu beaucoup moins connu, mais qui joue un rôle très important dans la mémoire.
À travers ces deux exemples, on va essayer de comprendre comment la mémoire de la Shoah se construit, évolue et se transmet aujourd'hui.
Libre d'y entrer et surtout d'en ressortir. Un peu plus de 80 ans après la naissance du camp d'Auschwitz-Birkenau, ses élèves marchent dans les pas de ceux qui n'ont pas eu ce choix.
Ce qui est important, dans cette chambre à gaz et aussi dans la chambre à gaz numéro 2, il y avait la douche fictive. Et le poison, cyclone B, était jeté et ce cyclone B provoquait la mort d'étouffement.
Se confronter à cette partie sombre de l'histoire, les 130 élèves du groupe s'y étaient préparés. Mais le voir, le ressentir, dépasse de loin ce qu'ils s'étaient imaginé.
Quand on parle de camp nazi, il y a un nom qui revient presque immédiatement, à Auschwitz.
Et ce n'est pas un hasard. Auschwitz a été à la fois un camp de concentration et un centre de mise à mort. C'est là que le régime nazi a mis en place un système d'extermination industrielle, organisé méthodiquement.
Des trains arrivaient de toute l'Europe. Les déportés étaient triés dès leur arrivée, certains étaient envoyés au travail forcé, d'autres étaient assassinés presque immédiatement.
Ce lieu incarne donc à lui seul la logique du génocide nazi. C'est pour cela qu'après la guerre, Auschwitz est devenu le symbole matériel de la Shoah en Europe.
Dès 1947, le site a été transformé en musée. Aujourd'hui, il accueille des millions de visiteurs chaque année.
Des classes scolaires, des touristes, des familles, mais aussi des chercheurs, des gens du monde entier viennent marcher sur ce lieu chargé d'histoire.
Cette visibilité est évidemment importante. Elle permet de transmettre l'histoire à un public très large, mais en même temps cela pose une question.
Parce que quand un lieu devient aussi fréquenté, aussi organisé, presque touristique, est-ce qu'il peut encore transmettre l'horreur réelle de ce qui s'est passé?
Certains historiens parlent même de tourisme mémoriel. On visite le site, on suit un parcours, on prend des photos, et parfois même on peut acheter une carte postale. Mais est-ce que cela suffit pour comprendre? Est-ce que cela est approprié?
D'autant plus que le lieu est aujourd'hui préservé, restauré, encadré. Les bâtiments sont entretenus, les chemins sont balisés. Avons-nous encore ce sentiment d'horreur qui régnait?
Et certains survivants disent que le lieu ne ressemble plus totalement à ce qu'ils ont vécu.
Oui, parce que l'horreur, la saleté, la peur permanente, tout cela ne peut pas être réellement reconstitué.
Tiens, là, qu'est-ce que tu vois, toi?
Le sol?
Oui, mais tu vois rien. Moi, je suis sûre que là, il y a quelqu'un qui est tombé sous les coups de la capot et qu'elle continue à taper alors que la personne est par terre.
C'est là que les témoignages deviennent essentiels, parce que les lieux à eux seuls ne peuvent pas tout raconter.
Une survivante en parle souvent, Ginette Kolinka. Elle a été déportée à Auschwitz-Birkenau à l'âge de 19 ans.
Aujourd'hui, elle intervient régulièrement dans des écoles ou lors de visites. Elle raconte son histoire aux jeunes générations.
Et elle dit souvent quelque chose de très simple, mais très fort. Les jeunes écoutent, mais ils ne peuvent pas imaginer.
Parce que certaines expériences dépassent ce qu'on peut comprendre. La faim extrême, la violence quotidienne, la déshumanisation totale.
Mais malgré tout, elle continue de témoigner. Parce qu'elle le répète souvent, si on ne raconte pas, alors ça recommencera.
Je suis encore là à raconter, à me demander comment on a fait. Vous savez, les nazis nous traitaient de sales cochonnes de juives, en allemand naturellement, mais je croyais que c'était une injure. Mais non, ils avaient raison. On était sales. On ne se lave pas, on n'a pas de culotte, on fait nos besoins, ça part tout seul. Ouais. Et dans ma tête, je ne vois pas les gens sales.
Les témoignages comme celui de Ginette Kolinka sont précieux, mais ils nous rappellent aussi une réalité.
Les survivants disparaissent peu à peu. La plupart sont aujourd'hui très âgés.
Et bientôt, il n'y aura plus personne pour raconter directement ce qu'ils ont vécu.
À ce moment-là, la mémoire reposera uniquement sur les archives, les historiens et les lieux de mémoire.
C'est pour cela que ces lieux deviennent essentiels. Ils permettent de faire vivre l'histoire, d'éviter l'oubli. À l'opposé d'Auschwitz, il existe un lieu beaucoup moins connu, le camp de Natzweiler-Struthof.
Il se trouve en Alsace, dans les montagnes, et c'est un lieu très particulier.
Parce que c'est le seul camp de concentration nazi installé sur le territoire français actuel.
Il a été ouvert en 1941 par les nazis. Des milliers de prisonniers y ont été déportés.
Principalement des résistants, des opposants politiques et des personnes considérées comme ennemies du régime.
Ce n'était pas un camp d'extermination comme Auschwitz, mais les conditions y étaient extrêmement violentes.
Travail forcé, malnutrition, brutalité, exécution, beaucoup de déportés y sont morts.
Il est un peu plus de 13h, le 25 novembre 1944, lorsque, guidés par un villageois, les soldats américains entrent dans le camp de concentration de Natzweiler-Struthof. Des membres des forces françaises de l'intérieur sont présents, ainsi que des journalistes. Le site est désert, il a été vidé par les nazis et nettoyé méthodiquement, mais rien n'a été détruit. Toutes les traces de la machine de mort sont là, intactes. Le four crématoire, les urnes funéraires, la table d'autopsie des détenus soumis à des expérimentations médicales. Les derniers SS ont fui le 22 novembre, mais la majorité des déportés a été évacuée au mois de septembre. Près de 6000 prisonniers conduits vers un autre enfer, le camp de concentration de Dachau en Allemagne.
Aujourd'hui, quand on arrive au Struthof, l'atmosphère est très différente d'Auschwitz. Le camp est entouré de forêts, il y a un silence très fort.
Le lieu est certes moins fréquenté, mais on prend plus facilement le temps de marcher, d'observer, de réfléchir.
Et cette dimension plus intime permet parfois une relation différente avec l'histoire.
Au-dessus du camp, il y a aussi un monument très impressionnant.
Un grand monument en béton, inauguré en 1960 par le général de Gaulle.
Il est très sobre, pas d'images choquantes, pas de scènes violentes.
On y trouve simplement une flamme symbolique et le tombeau du déporté inconnu.
Le message est clair, on ne montre pas l'horreur directement, on la suggère.
Et parfois, cette sobriété peut être plus puissante, parce qu'elle oblige le visiteur à réfléchir.
Finalement, Auschwitz et le Struthof représentent deux manières différentes de transmettre la mémoire.
Auschwitz est devenu un symbole mondial, un lieu immense qui rend visible l'histoire à l'échelle internationale.
Le Struthof, lui, propose une mémoire plus silencieuse, plus intime.
Mais les deux jouent un rôle essentiel.
Parce qu'ils permettent de faire vivre l'histoire et d'empêcher l'oubli.
La mémoire ne se transmet pas toute seule. Elle se construit, elle évolue, elle dépend des lieux, des témoins et des générations.
Les lieux de mémoire nous rappellent que l'histoire n'est pas seulement dans les livres. Elle existe aussi dans les paysages, les bâtiments et les traces laissées par le passé.
Mais ces lieux nous posent aussi une responsabilité.
Celle de continuer à raconter, à transmettre, à expliquer.
Parce qu'un jour, il n'y aura plus de témoins.
Et à ce moment-là, la mémoire reposera entièrement sur nous.
Alors la question est simple. Comment les jeunes générations feront-elles pour faire perdurer cette mémoire?
J'utilise le témoignage parce que, égoïstement, c'est à moi que ça fait du bien. J'essaye de croire que tous ceux qui m'écoutent deviendront des passeurs de mémoire.
C'était Passeurs de mémoire avec Maa,
Marine
et Marie.